Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
À la une de ce samedi, les trois grands titres, Stéphane Jeunesse, Stéphanie Rock.
En football, la France affronte le Danemark. En cas de victoire, les Bleus seront qualifiés pour les huitièmes de finale.
Plus de 3000 personnes réunies hier soir à Tonneins à l'occasion d'une marche blanche en hommage à la jeune Vanessa. Et l'hiver pourrait être délicat. Enedis remet une pièce dans la machine. Tout le monde pourra être concerné par des coupures d'électricité.
La matinale week-end.
Et l'on démarre par le sport parce que l'info c'est du sport ce matin. Le jour de gloire est donc arrivé. Deuxième match de ce mondial pour l'équipe de France cet après-midi.
France-Danemark, sûrement le match le plus indécis de ce groupe D, mais Didier Deschamps le sait, une victoire est impérative pour assurer la qualification en huitième de finale. Le sélectionneur devrait opérer quelques modifications à son 11 de départ. Explication Arthur Perrault.
Changement de taille, Benjamin Pavard cède sa place à Jules Koundé. La faute à ses pertes de balles et un manque de justesse sur le premier match. Avec le Barcelonais, le sélectionneur opte à droite pour un défenseur central de formation. Deschamps peut aussi compter sur le retour d'un cadre, Raphaël Varane. 87 sélections, un peu plus d'un mois après sa blessure à la cuisse. Il a participé aux 4 dernières séances d'entraînement. Ses sensations sont bonnes. Devant, l'attaque de feu reste en place. Griezmann, Dembélé, Mbappé et Giroud sont reconduits avec comme objectif, une victoire à tout prix, synonyme de place en huitième de finale.
Oui, une victoire à tout prix, pas simple. La France reste sur 2 défaites en juin et en septembre face au Danemark. Une équipe que Didier Deschamps, le sélectionneur, juge coriace.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères. Donc c'est de faire en sorte qu'on inverse la tendance. Évidemment, tout ce qu'il y a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise qui a toujours cette capacité quasiment sur tous les matchs de changer de système. Et ça peut amener à des difficultés différentes.
Le Danemark, qui pour son entrée en lice s'est fait accrocher par la Tunisie, 0-0. L'équipe scandinave a fait parler d'elle pour ses prises de position sur les droits de l'homme en amont de la compétition. De là à dire que l'extra-sportif a pris le pas sur l'événement, Léna Marjac.
Une entame de compétition moyenne avec un match nul face à la Tunisie. L'impression que les Danois n'avaient pas la tête à ça. Et la raison, ils n'ont pas pu exprimer leurs revendications. Interdiction de porter le brassard One Love aux couleurs arc-en-ciel en match et un t-shirt droit de l'homme pour tous à l'entraînement. Kasper Hjulmand, le sélectionneur, ne veut pas lier ce mauvais match à cela.
Tout cela ne joue pas sur nos performances. En arrivant ici, on s'est dit que nous devions nous concentrer sur le football. C'est ce qu'on essaye de faire et que c'est à d'autres personnes de continuer ce travail.
Face à la Tunisie, l'ex-première ministre danoise était en tribune avec une robe aux manches arc-en-ciel. Et il y a trois jours, c'est le président de la fédération danoise, Jacob Jensen, qui a pris la parole en conférence de presse énervé contre la FIFA.
Je suis extrêmement déçu. La FIFA considère le brassard comme une déclaration politique. Pour nous, ce n'est pas le cas. Ils mettent en avant un droit universel.
Cet après-midi, les Danois pourraient suivre les Allemands qui ont protesté publiquement lors de leur premier match en se couvrant la bouche sur la photo d'équipe.
France-Danemark, c'est à vivre dès 17h dans l'intégrale Coupe du Monde sur RMC. Hier, l'Iran a battu le Pays de Galles 2-0. L'Angleterre et les États-Unis se sont neutralisés 0 partout. Et puis à noter, en bref, la blessure du Brésilien Neymar, sorti prématurément du terrain face à la Serbie. L'attaquant du Paris Saint-Germain souffre d'une lésion ligamentaire à la cheville. Il est d'ores et déjà forfait pour le match de la CLSAO lundi face à la Suisse. Neymar, qui sur son compte Instagram hier a déclaré être sûr d'avoir une chance de revenir, il devrait être mis au repos au moins jusqu'au huitième de finale.
Merci beaucoup Stéphanie Rock. Et vous, est-ce que vous voyez cette équipe de France se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale? 32-16, on vous attend. Soyez les bienvenus, il est 6h04. Le reste de l'actualité, Stéphane Jeunesse, c'était cette émotion très vive hier soir à Tonneins, une semaine après le meurtre de la jeune Vanessa.
La ville du Lot-et-Garonne réunie pour un dernier hommage à l'adolescente de 14 ans. Plus de 3000 personnes ont participé à une messe, à une marche blanche. La mère de Vanessa, son petit frère et sa sœur cadette ouvraient le cortège, tous vêtus de blanc. Le reportage à Tonneins, notre envoyé spécial Jean-Wilfried Forquès.
Dans le cortège compact et silencieux qui s'étend sur près d'un kilomètre, il y a Gwen et Thierry, parents d'élèves habitants de Tonneins, très émus par cette mobilisation.
C'est vraiment impressionnant. La commune est mobilisée, est touchée.
C'est une petite ville et on a l'impression que toute la ville est présente, donc ça fait chaud au cœur.
Beaucoup de collégiens sont là, comme Evan, 13 ans, très affecté par la perte d'une copine.
Ma famille a beaucoup pleuré, même moi, hein. Et tout le monde a pleuré parce qu'on est triste.
Plutôt, ils étaient plusieurs centaines à participer à la cérémonie religieuse. Jean-Pierre est venu du département du Gers. Pour lui, c'était nécessaire. Il était là pour la mémoire de Vanessa.
Ça m'a énormément frappé. Ça ne devrait pas se produire. C'est horrifiant. C'est affreux. J'ai cru bon faire mon devoir de venir.
Au terme de ces deux moments poignants, la maman de Vanessa a remercié tous les participants. Merci de nous accompagner, a-t-elle souligné en espagnol, les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix.
Le reportage de Jean-Wilfried Forquès à Tonneins pour RMC. En bref, un mort dans l'incendie d'un immeuble à Nice hier soir. Une autre personne gravement blessée. Le feu a pris au quatrième étage d'une tour du quartier Nice-Nord.
Encore une nuit agitée à l'Assemblée nationale avec en point d'orgue l'activation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Par Elisabeth Borne.
Sixième fois en un mois que la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de budget de la Sécurité sociale en nouvelle lecture. La France insoumise a immédiatement déposé une nouvelle motion de censure. L'actualité politique qui est aussi judiciaire puisque la justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Au cœur des investigations, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet de conseil McKinsey, une information judiciaire qui n'inquiète pas vraiment le président de la République.
C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite.
Et sur le front du Covid, Emmanuel Macron s'en remet aux scientifiques pour la réintégration des personnels soignants non vaccinés contre le Covid-19. Et c'est alors que les chiffres repartent à la hausse, plus 49 000 nouvelles contaminations hier. C'est 31% de plus que la semaine dernière.
RMC 6h07. Vous avez certainement rallumé le chauffage. Eh bien attention, Enedis nous avertit, tous les foyers sont susceptibles cet hiver de subir des coupures d'électricité.
Et cela, Mathieu, en raison de l'activité du parc énergétique français, puisque près de la moitié des réacteurs nucléaires du pays sont encore à l'arrêt, retard au démarrage, qui aura évidemment des conséquences sur l'hiver. Avec un exemple concret, Kevin Gassier, le réacteur numéro 2 de la centrale de Flamanville en Normandie, n'a toujours pas redémarré.
Oui, la remise en marche de ce réacteur a été repoussée au 1er décembre après la détection d'un problème de vanne et ce n'est pas le seul retard. EDF avait annoncé le redémarrage de 11 réacteurs nucléaires avant la fin novembre, mais 5 sont déjà repoussés à décembre en raison de fissures inattendues dans les canalisations, justifie EDF, mais aussi du mouvement de grève qui a touché les centrales nucléaires en octobre. Conséquence de ces retards, le parc nucléaire, qui représente 70% de l'électricité en France, produit actuellement 33 gigawatts au lieu des 48 prévus par EDF. Alors le gouvernement français a déjà prévu d'importer de l'électricité d'Allemagne pour faire face au pic de consommation cet hiver. Mais si les retards persistent et en cas de vague de froid, des coupures de courant ne sont pas à exclure.
Eh ben voilà, merci beaucoup Kevin Gasser, merci Stéphane Genest et Stéphanie Rock. On se retrouve dans une demi-heure. L'info, le sport, c'est toutes les demi-heures. Dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h. Vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre sur tous nos réseaux et sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio. Bonjour à vous tous.
Bonjour Nicolas, parce qu'il nous envoie un petit message en disant bonjour les leftos du samedi matin, ravi de vous retrouver pour nous accompagner sur le siège passager du camion ce matin.
Oh que oui.
Et il nous dit 4 degrés à Bourg-en-Bresse, bonne journée à tous. Il y a également Monique qui vous envoie le bonjour Mathieu avec cette actualité riche, je vous suis. Et alors elle me conseille un petit film de Noël pour ma sieste.
Ah oui, c'est vrai.
Elle me dit il y en a plein sur toutes les chaînes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vous en recommande un que j'ai regardé hier sur lequel je me suis endormie. J'ai regardé la fin au bout d'une heure. The Noël Diary. C'est sur Netflix, c'est avec Justin Hartley, vous savez qui c'est ?
Non.
D'accord, c'est Kevin Person dans la série This Is Us, vous voyez ?
Non plus.
J'en étais sûr.
Voilà.
Allez, tapez Justin Hartley, vous allez comprendre, il est charmant. Je ne vous dis que ça.
Alors, vous faites ça aussi, vous. Vous vous endormez pendant la sieste devant un film.
Oui.
Quand vous vous réveillez, vous remettez le film.
Bah évidemment,
pour le finir.
Au moment où je me suis arrêtée.
Moi aussi, je fais ça. Ah bah tous les après-midi passent à une vitesse.
C'est clair.
Myriam est avec nous. Bonjour Myriam.
Bonjour Myriam.
Bonjour l'équipe. Vous
comment
allez
ça
bien ?
Va ce matin, Myriam ?
Ça va.
De retour dans la Drôme.
Eh oui.
Et dites-moi.
Choc thermique.
Qu'est-ce que j'ai entre les mains, Myriam ?
Ah ben, vous avez peut-être la carte postale.
Mais oui, ça nous a fait hyper plaisir de recevoir ça cette semaine.
De une belle
carte postale de La Réunion, vos vacances à La Réunion.
Comment ?
Vos vacances à La Réunion, ça s'est bien passé.
Ah ben oui, il faudrait être difficile, hein.
Tout est magnifique, les gens sont gentils, accueillants. Même dans les bouchons, ils ne râlent pas. C'est ce que vous nous avez écrit sur la petite carte postale.
Eh ben, on a été étonnés parce qu'à Saint-Denis, il y a toujours des bouchons. Tous les matins, on était dans les bouchons pour aller à la plage. Eh ben, il faudrait que les Parisiens y aillent un petit peu.
Oui, ça ferait du bien. Et vous avez mangé des bouchons là-bas ? Ça fait partie des spécialités.
On n'a pas mangé de bouchons.
Mais du rougail
saucisse. Mon mari a mangé des bouchons pimentés là.
Mais oui.
Mais ça pique de trop.
Et le rougail saucisse ?
Rougail saucisse, on l'a fait. Moi, j'ai même fait moi-même.
Ah ouais ?
Oui, oui. Donc, non, c'est très bon. Enfin, il faut aimer le riz, hein.
Ah bah oui. Ah bah ça, c'est normal. Là-bas, on mange beaucoup de riz, c'est vrai.
Mais bon, c'est magnifique. Les gens sont accueillants. Bon, on est des touristes, hein. On reste des touristes quand même. Mais les gens sont accueillants. On sent qu'ils aiment leur île, quoi.
Je sens que ça vous a reboosté, là. Vous avez fait le plein d'énergie, Myriam.
Voilà, vivement l'année prochaine, on y retourne.
Ah ouais, coup de cœur, alors, vrai coup de cœur.
Oui, mais comme on est des randonneurs, on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, quoi.
Piton c'est de la Fournaise, les cirques.
On n'a pas fait le cirque de Mafate, donc on y retourne pour faire le cirque de Mafate. Voilà.
Ça fait une belle perspective d'ici l'année prochaine.
C'est magnifique, c'est... Vous avez des paysages lunaires d'un côté, des paysages carte postale de l'autre. En tout cas,
c'est très sympa d'avoir pensé à nous pendant vos vacances.
Mais je vous avais promis. Hein,
oui, exact.
C'est la grande famille RMC, on ne se quitte jamais, même pendant les vacances.
Ah non, on vous écoutait les 11h du matin.
Ah oui, alors ça fait bizarre. Hein. Mais c'est
au début,
aussi agréable.
Oui, mais après, on s'y habitue. Mais bon, on vous écoutait en déjeuner sur la terrasse. Donc c'était rigolo.
Merci encore Myriam de cette carte postale, la vraie que nous avons reçue, et de cette carte postale auditive que vous nous décrivez là ce matin.
Ça... Et le rhum est excellent. Hein.
Ah oui, nous sommes avec modération, mais c'est très bon.
Ah ouais, mais enfin, modération.
On se comprend quoi.
Voilà.
Bon bah, et je le disais, je vous sens en pleine forme, hein, Myriam.
Bonne journée à vous. Bonne fête de fin d'année.
À vous aussi.
Et joyeux bon Noël. Joyeux Noël. Moi, depuis la semaine dernière, je dis joyeux Noël.
Et la semaine prochaine, vous nous direz bonne année quoi.
Ouais, voilà, et puis après, il dira joyeuse Pâques en décembre.
C'est ça. Vous avez tout compris.
Allez, bonne journée.
On vous embrasse.
Salut Myriam. À bientôt. Tiens, dans un instant, le débat qui a été relancé depuis 48 heures.
Et oui, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ?
Pourquoi pas ? Si les autorités scientifiques donnent leur feu vert, voilà ce que dit Emmanuel Macron, sauf que le ministre de la Santé dit hors de question avec la reprise du Covid. Pourquoi on en fait encore un débat en France ? Reportage de la rédaction dans une minute sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
6h13, vous êtes sur RMC, vous êtes bien. Est-ce que vous achèteriez de la viande à un boucher vegan ? Non. Alors pourquoi est-ce que vous accepteriez de confier votre santé à un soignant anti-vax ? Voilà ce que vous pouvez lire si vous ouvrez les réseaux sociaux ce matin. Pas de doute, le débat est bien lancé. Le ministre de la Santé garde le cap. Ce n'est sûrement pas le moment de réintégrer à l'hôpital les personnels soignants qui refusent ce vaccin. Le Covid repart en France. 1000 patients en soins critiques, 800 hospitalisations par jour, 49 000 contaminations en 24 heures. Après deux nuits de tension à l'Assemblée nationale autour de ce sujet, la pression s'accroît sur le gouvernement, d'autant plus qu'Emmanuel Macron laisse une porte ouverte. Reportage de la rédaction d'RMC signé ce matin Cyprien Pézeril.
Il serait 4000 soignants. Selon la Fédération hospitalière de France, a refusé la vaccination contre le Covid et donc interdit de travailler. Interdiction soutenue notamment par les scientifiques de la Haute Autorité de Santé depuis septembre 2021. Et pour Emmanuel Macron, la balle est encore dans leur camp.
Il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable, d'un point de vue scientifique, de réintégrer ces soignants. Il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
Les scientifiques ne devraient pas rendre d'avis avant 2023, mais le chef de l'État en trouve donc bel et bien une porte pour la réintégration. Pourtant, quelques minutes plus tôt, son propre ministre de la Santé, François Braun, opposait un non catégorique.
Remettre en cause la vaccination, c'est mettre notre pays en danger. Et puis, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Quand on est soignant, on a une éthique. Et la première de cette éthique, c'est de protéger les personnes les plus fragiles que l'on nous confie.
Les députés des oppositions réclament un retour avec un test Covid tous les jours pour les médecins et infirmiers non vaccinés. Particulièrement mobilisés, les élus d'outre-mer où le niveau de vaccination est beaucoup plus plus faible qu'en métropole. Principal argument pour Jean-Philippe Nilor, député LFI de Martinique, les hôpitaux manquent de bras.
Chez nous, ceux qui ont un schéma vaccinal complet, c'est moins de 20%. Vous entendez ? Moins de 20%. Comment l'hôpital peut fonctionner ? Aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux ferment les yeux sur ça et utilisent des gens qui n'ont pas le schéma vaccinal complet. Ils ne peuvent pas faire autrement. Est-ce que dans un autre territoire de l'Hexagone, on aurait accepté des situations sanitaires telles que celle-là ? Les gens sont en train de mourir dans des brancards chez nous.
La France, qui est l'un des derniers pays d'Europe à maintenir une obligation vaccinale pour les soignants, abandonnée au Royaume-Uni, abandonnée aussi au début du mois en Italie et au 31 décembre prochain en Allemagne.
Merci Cyprien Pézeri, le service politique d'RMC.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Les soignants qui refusent le vaccin ont-ils leur place à l'hôpital aujourd'hui ? Comprendriez-vous qu'ils soient réintégrés ? Vous êtes patient, soignant, on vous attend. Vos réactions ce matin au 32-16.
Bien, Francisco, partons dans l'Hérault. Bonjour Francisco.
Bonjour.
Bonjour RMC. Ça va ?
Ça va et vous ?
Ben, moi, formidable. Je m'apprête à partir à la société de pêche dont je suis un des animateurs. On fait un lâcher de truite ce matin.
Pas mal comme programme, Francisco. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés ?
Écoutez, moi, je fais confiance à la science. Hein. Je vais sur 75 ans, j'ai été opéré plusieurs fois pour des choses graves. Je m'en suis sorti grâce aux scientifiques. Donc, je pense qu'il ne faut pas réintégrer les personnels qui ne veulent pas se vacciner. J'en connais un, je connais une dame qui tient des propos complotistes, qui dit qu'il y a des produits chimiques nocifs dans le vaccin, qu'il y a certains, j'entends qu'on dit qu'il y a des puces dans le vaccin, qu'on va suivre les gens.
Et cette dame est soignante, c'est quoi son poste exact ?
Infirmière.
Oui. Francisco, infirmière. Si je vous suis, ça veut dire que vous, si vous êtes hospitalisé demain ou si vous avez besoin d'une infirmière à domicile, de votre médecin traitant, etc., vous ne confieriez pas votre santé à des médecins, des soignants qui tiennent ce genre de propos ?
Absolument. Je pense que ça fait partie de l'abaissement de notre pays, ce genre de discours. Que le Covid soit quelque chose de nouveau et qu'on tâtonne. Et je pense que le gouvernement là-dessus, l'ancien gouvernement s'est planté en affirmant certaines choses, puis en revenant sur ses affirmations. Il n'a pas été assez prudent. Ça décrédibilise la parole politique et évidemment les thèses complotistes, les thèses anti-scientifiques pullulent.
Francisco, sauf que j'imagine que parmi ces 4000 personnels soignants non vaccinés, tous ne sont pas forcément anti-vax et complotistes.
Eh bien, je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas d'informations là-dessus. Vous me dites, je pense qu'il est possible. Moi, tous ceux que je connais qui sont anti-vax, hein, que ce soit l'infirmière que je connais ou bien des gens que je côtoie qui sont anti-vax, moi, je me méfie d'eux. Je me méfie. Je me rappelle quand ils ne voulaient pas porter le masque et que moi, je le portais, ben, je n'allais pas chez eux et je ne les recevais pas chez moi.
Je comprends votre raisonnement, Francisco. Ça se tient parfaitement. 32-16, on va poursuivre le débat tout à l'heure jusqu'à 8h10 avec Olivier Servat, le député qui a remis ce sujet sur la table à l'Assemblée. Sur le plan médical, aujourd'hui, les soignants qui ont accepté de se vacciner ne sont plus forcément immunisés. Ils ont eu 3 doses et la dernière dose, parfois, il y a plus d'un an. Ils ne sont pas forcément plus immunisés aujourd'hui que ceux qui n'ont pas du tout reçu de dose. Il y a aussi cette question-là, 32-16, si vous souhaitez y réagir. Un grand merci, Francisco. Excellente journée. Il est 6h18.
À suivre dans la matinale week-end.
Tous devant les Bleus ce soir. Deuxième match contre le Danemark.
C'est à 17h le coup d'envoi. Et c'est donc parfait pour un apéro goûter que vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire livrer pendant les matchs. Le boom de la livraison des repas pendant cette Coupe du Monde avec Anthony Morel. C'est déjà demain. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
6h20, vous l'aurez compris, c'est ce soir. 17h, France-Danemark, deuxième match des Bleus. Quels sont les codes, quelles sont les chances des parieurs et les meilleurs conseils à suivre ? On va voir tout cela avec Coach Courbis et Jean-Christophe Drouet dans 2-3 minutes. D'abord, ceux qui se frottent les mains avec cette Coupe du Monde.
RMC, la matinale week-end.
C'est déjà demain.
Et il y en a pour qui le mondial rapporte déjà gros. Oui. Ce sont évidemment les professionnels de la restauration rapide, des livraisons de pizza, de burgers et autres sushis.
Chiffre d'affaires multiplié par deux pendant les compétitions sportives, avec une nouveauté. Ce n'est pas un livreur à vélo, mais un robot qui vient sonner à votre porte. Mais oui. Bonjour Anthony Morel.
Bonjour. Figurez-vous que ça existe déjà aux États-Unis. Uber est en train de remplacer une partie de ses livreurs à vélo par des véhicules autonomes.
C'est ça, vous commandez une pizza et plutôt qu'un livreur à vélo ou à scooter, c'est un robot qui va l'apporter jusqu'au seuil de votre porte. Alors quand je dis un robot, c'est en fait une sorte de pot de yaourt monté sur roue qui est bardé de capteurs, de caméras, capable de se déplacer dans la rue, sur les trottoirs. C'est testé aux États-Unis et le principe est assez simple. Vous passez commande comme c'est le cas aujourd'hui et ces petits robots, eh bien, ils vont aller jusqu'au restaurant chercher votre commande, faire le trajet jusqu'à votre domicile. Alors normalement, ils se fondent au milieu des piétons. Hein. Ils sont censés ne pas entrer en collision avec quoi que ce soit. J'irai aussi les nids de poules. Faudra censé, voir ce que ça donne en vrai. Je dis bien censé. Et ils seront alors quand même supervisés à distance par un opérateur qui peut reprendre le contrôle en cas de problème. Et donc le robot arrive devant chez vous, vous recevez une alerte, un code pour pouvoir le déverrouiller, parce que sinon n'importe qui peut prendre dans la rue évidemment votre repas, vous le déverrouillez et il repart. Alors vous allez me dire, enfin moi j'habite au 5e étage, il ne va pas venir sonner jusque chez moi.
Il prend l'ascenseur ?
Alors il ne prend pas encore l'ascenseur, mais la prochaine génération, il y a des robots absolument incroyables qui roulent sur la route, et puis quand ils arrivent devant un interphone ou devant un ascenseur, ils se transforment en bipède et ils appuient sur le bouton. Bon, vaut mieux être prévenu. Alors, la première fois que la quatre fromages arrive avec le robot en mode Transformers, ça peut quand même faire un peu peur.
Ouais, et puis alors ça me fait penser par exemple au drone là qui nous livrait nos vous nous aviez parlé,
c'est vrai.
Ça. Finalement, c'est un peu de la com, non? Ça n'existe jamais vraiment.
Alors en réalité, aux États-Unis, ça existe, c'est déjà disponible pour plusieurs millions d'utilisateurs, mais c'est pas dans les centres-villes, c'est pas là que ça va se jouer en fait, mais en fait dans les banlieues américaines ou même dans les campagnes, à des endroits où les drones peuvent se poser pour apporter des marchandises, ça peut être des médicaments également, ça fonctionne plutôt pas trop mal en fait.
Et pour ces robots là, on peut aussi imaginer ça en France bientôt.
Alors, on peut l'imaginer et ça existe déjà, la livraison autonome, tout le monde est en train de s'y mettre et je pense à une start-up qui s'appelle Twinswheel qui est basée du côté de Cahors, ils travaillent notamment avec la Poste sur des droïdes de plusieurs tailles. Alors vous avez des modèles d'1m80 de haut pour les plus gros colis et qui vont donc porter un certain nombre de charges en suivant un facteur comme un petit chien ou bien en mode complètement autonome. Ils peuvent aussi transporter les courses d'une personne âgée par exemple, et l'avantage de ces robots par rapport à une fourgonnette de livraison par exemple, c'est qu'ils sont plus maniables, ils passent facilement dans les centres-villes piétonnisés ou dans les rues un petit peu tortueuses.
Ça va quand même faire beaucoup de monde sur nos trottoirs.
Oui, alors entre les robots de livraison et les trottinettes, on saura bientôt plus où marcher, ça va être un sacré bazar en perspective, d'autant que vous aurez le robot de la Poste, celui avec votre commandé, celui de Pizza Hut avec votre 4 fromages, celui de Carrefour ou Leclerc avec vos courses. Donc va falloir un peu zigzaguer. On va voir comment se passe la cohabitation avec les piétons. Et puis il y a des questions qui vont se poser. Par exemple, quelle sera leur autonomie? Parce que si ces véhicules électriques tombent en panne en plein milieu d'une livraison, ça va être un petit peu gênant. Donc il faudra encore quelques années pour voir si c'est seulement un fantasme de technophile ou une réalité concrète très pratique pour les consommateurs.
Ouais, merci Anthony Morel. C'est déjà demain. On vous retrouve en podcast sur l'appli. Racontez-nous, tiens d'ailleurs, ce soir, comment vous allez suivre le match. Est-ce que vous commandez ou pas, à livrer à domicile. En attendant, sur quoi il faut miser? Comment miser les meilleurs paris? Quels sont les codes? Bah tiens, je me tourne vers la Dream Team des paris RMC qui se lève tôt pour vous. Coach Courbis, Jean-Christophe Drouet, bonjour à vous deux.
Bonjour Mathieu, bon samedi à tous.
Salut Mathieu et salut à tous.
Jour de match des Bleus avec Roland Courbis à 17h. La France affronte le Danemark. La France en tête du groupe D avec 3 points. Le Danemark deuxième avec 1 point. Les cotes 1,74 la victoire de la France, 3,65 le match nul, 5,10 la victoire du Danemark. Coach, on joue quoi sur cette rencontre? Déjà un pari plutôt sûr.
Bah écoute, déjà je vois la France qui gagne malgré tout ce que je peux entendre à droite à gauche. Et je fais ce que j'appelle un classique, que je vois en plus tout à fait logique. France qui gagne, plus Mbappé buteur.
Bah ça nous donne déjà une très belle cote, mon coach. 2,85 pour la France qui s'impose avec un but de Kylian Mbappé. Un pari de folie maintenant sur ce match.
Bah, disons que je partirai sur un 2-1, 3-1, 4-1 avec Mbappé ou Giroud buteur.
Mbappé ou Giroud buteur, et tu donnes des scores multichance 2-1, 3-1, 4-1. Là, on est à 5,40, mais je te connais, tu veux nous préparer un petit ticket supplémentaire parce que c'est les Bleus.
Oui, parce que sinon j'aurais trop de regrets. Si je devine Mbappé ou Giroud, bah, je vais mettre aussi Mbappé et Giroud. Ça sera un petit peu plus gourmand, mais je serais déjà consolé si j'avais eu celui d'avant.
Alors là, c'est incroyable. La France qui s'impose 2-1, 3-1, 4-1, Mbappé plus Giroud. Là, on est à 16. 10 euros, 160 euros. Merci mon coach. Et on dit quoi?
J'espère de tout mon cœur que ça se passera.
Et allez les Bleus.
Évidemment.
les paris RMC. On vous retrouve à midi tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, vous, les Bleus l'emporter ce soir, se qualifier pour les huitièmes? 32-16, oui. Pierre nous dit, attention, hein. Attention, ça va être dur contre le Danemark. On attend vos messages. Si vous préférez miser sur les hippodromes, c'est maintenant, 6h26.
La matinale week-end.
Les courses RMC.
Avec Dimitri Blanc-L'Œil. Bonjour Dimitri.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nous partons à Vincennes aujourd'hui.
Effectivement, 15h15, le quintet, horaire habituel.
Les chevaux, les juments, combien seront-ils?
Alors ils sont 14, c'est un petit peloton par rapport à d'habitude, mais ça reste quand même une course assez ouverte, voilà, comme tous les quintets.
Alors on a besoin de vous, votre dernier bruit, celui de la Dream Team de la course RMC.
Le numéro 3, Fakir du Ranch, qui reste sur une victoire et qui a ce qu'on appelle dans le jargon des lignes. Est-ce que vous savez ce que c'est que des lignes?
Pas du tout. Ben, à la pêche, oui, je vois.
Là pour le coup, c'est à la pêche aux infos, effectivement, mais c'est tout simplement quand vous battez un cheval qui regagne derrière, on appelle ça une ligne gagnante.
Oui.
Et il reste sur une victoire, enfin, Fakir du Ranch, il a battu un cheval qui s'appelle Gamay de Liton, qui vient de gagner une belle épreuve. Donc on se dit que quand c'est comme ça, il va répéter.
Numéro 3, si jamais il ne part pas.
Alors en cas de non partant de ce numéro 3, Fakir du Ranch, on peut partir sur le numéro 9, Eline, qui est une jument plutôt régulière. Je ne pense pas qu'elle puisse gagner, mais en tout cas, elle fait toutes ses courses. Et comme on est dans un quintet, on sait souvent que les parieurs et les quintetistes ont besoin de base. Et voilà, ça peut être une base intéressante au cas où le numéro 3, Fakir du Ranch, est non partant.
Merci beaucoup Dimitri. Tous les pronostics de la Dream Team des courses RMC à retrouver sur rmc.fr. Dans le journal de 6h30, nous repartons à l'Assemblée. Encore une nuit tendue. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Stéphane Jeunesse, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres de ce samedi.
L'article 49.3, encore une fois, dégainé par la première ministre Elisabeth Borne cette nuit. Et le niveau à l'école baisse en français, il reste stable en maths. On vous explique les enseignements des résultats des évaluations nationales menées par l'exécutif.
La France affronte le Danemark cet après-midi pour une qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde.
Et de 6, et de 6 en un mois. Sixième fois qu'Elisabeth Borne s'en remet à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer le budget de la Sécurité sociale.
Et pour la deuxième nuit consécutive, la séance à l'Assemblée nationale a été houleuse et les échanges particulièrement tendus, Martin Cadoret.
Oui, c'est désormais monnaie courante à l'Assemblée. Une motion de censure déposée par la France Insoumise, motion rejetée, et dans la foulée, un 49-3 qui engage la responsabilité du gouvernement et permet de faire passer un texte d'un coup sans discuter les amendements. Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions. Voilà ce qu'a dit hier soir Elisabeth Borne. Point culminant de 48 heures de tension à l'Assemblée ou 48 heures de tension faite d'invectives. Jeudi déjà, Olivier Servard, député Liberté, Territoire et Outre-mer, avait lancé « Tu vas la fermer » à un député de la majorité. Puis hier, les macronistes ont tout fait pour empêcher le vote d'un texte insoumis sur la réintégration des soignants non vaccinés. Leurs armes, des suspensions de séance, des amendements intempestifs destinés à ralentir les débats. L'opposition furieuse jusque dans les rangs LR parle de déni de démocratie, juge inadmissible l'attitude de la majorité. Ces pratiques d'obstruction parlementaire seront au menu mardi matin d'une réunion entre la présidente de l'Assemblée et les présidents de groupe.
Les précisions de Martin Cadoret. Merci beaucoup Martin. Allez, direction l'école primaire et le collège. Ça va nous faire du bien parce qu'en français, le niveau baisse, en mathématiques, ça reste stable avec tout de même de grandes fractures.
Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé hier les résultats de ces évaluations repères qui portent notamment sur ces deux matières. Enquête menée sur les élèves de CP, de CE1 et de 6e. Et voilà le côté positif. En français surtout, les plus jeunes parviennent à déchiffrer les mots, certes, mais ils peinent à donner du sens au texte qu'ils lisent. Réaction de Guylaine David, porte-parole du SNUPP-FSU, principal syndicat enseignant du premier degré.
La lecture, ça se travaille dès la maternelle, en lisant des textes, en travaillant la compréhension orale. Ça passe aussi par le langage, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir lire les lettres ou les associer entre elles. On peut avoir des élèves qui décodent très vite, par contre, qui ne vont pas comprendre certains éléments du texte. Toute la compréhension fine, elle est essentielle pour les mathématiques. Si on ne maîtrise pas la compréhension fine en lecture, on est en difficulté sur la résolution de problèmes. Ces derniers temps, on a beaucoup axé la formation sur la question du décodage, du déchiffrage. Et il faut vraiment, là, on soit dans quelque chose d'autre qui travaille la compréhension en lecture.
En bref, un incendie dans une tour hier soir à Nice a fait au moins un mort et un blessé grave. L'immeuble fait 14 étages. Le feu a pris au 4e. Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées et prises en charge dans une école voisine.
Ça y est, c'est dans moins d'un mois, J-29, avant Noël pour être précis. Et plusieurs villes se mettent petit à petit dans l'ambiance avec les traditionnels marchés de Noël.
Comme à Strasbourg, Strasbourg, capitale autour pour calamier de Noël, qui s'est illuminée hier. Édition évidemment particulière cette année à Strasbourg comme ailleurs, en raison notamment de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat. C'est ce qu'a constaté Amandine Réau au marché de Noël du Jardin des Tuileries à Paris.
Qui dit marché de Noël dit vin chaud. Myriam et Patrick, venus de Vendée, se promènent entre les chalets, un verre à la main.
Tradition oblige.
Mais même pour ces traditions, ils surveillent leur porte-monnaie.
Le prix du vin chaud, 5 euros, c'est un peu cher, moi je trouve.
La dernière fois qu'Emmanuel, assistante maternelle en Corse, était venue au marché de Noël à Paris, elle s'était fait plaisir.
En décembre 2020, j'avais acheté une écharpe, il y avait des petites choses proposées, des huîtres. 200 euros, on les avait dépensées.
Mais cette année, à cause de l'inflation, le programme est plus sobre.
On se fait plaisir avec les yeux.
Derrière ces tablettes géantes de chocolat artisanal, Lydia l'observe, les clients ont changé de comportement.
Dès qu'ils voient le prix ou qu'ils mettent un morceau de chocolat sur la balance, des fois, ils me disent même pas au revoir, ils me laissent ma marchandise. Peut-être que c'est pas dans leur budget, mais qu'ils savent pas comment le dire, quoi.
Pour d'autres, Noël, c'est sacré. Tamae est étudiante à l'école du Louvre.
J'ai acheté des boucles d'oreilles pour une amie pour son cadeau de Noël. Faut toujours se faire un peu plaisir, quoi.
Les artisans qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaires annuel pendant ces marchés de Noël misent sur les touristes étrangers. Eux ont tendance à dépenser sans compter.
RMC 6h34.
RMC, le journal des sports.
Stéphanie Roch, l'événement, la Coupe du Monde de football avec ce deuxième match des Bleus cet après-midi face à leur bête noire, le Danemark.
Cette année, la France a affronté le Danemark à deux reprises. Résultat, deux défaites. Mais Hugo Lloris veut rester positif. Vous savez, Mathieu, quand l'ambiance est bonne dans le vestiaire, les joueurs ont cette petite expression qui est toujours efficace.
Le groupe vit bien.
Le fameux « le groupe vit bien ». Exactement, je vois que vous la connaissez. C'est le message que le capitaine est venu livrer hier en conférence de presse.
Si on veut aller loin dans une compétition, il vaut mieux qu'on ait un groupe qui vive bien, avec une bonne énergie, avec un bon état d'esprit. C'est le cas pour le moment, malgré les aléas, malgré les circonstances. On a toujours répondu de la meilleure des façons. Maintenant, on pourra uniquement juger la valeur de ce groupe lorsqu'on sera confronté à des difficultés.
Ce France-Danemark s'annonce comme le match le plus indécis de ce groupe D. Et la France pourra compter sur ses supporters. Il devrait être environ 5000 pour cette rencontre. Et Martin Bourdin en a croisé quelques-uns dans les rues de Doha, en plein shopping.
C'était le sésame qu'Olivier cherchait depuis quelques jours dans les rues de Doha.
Les Bleus !
Un petit tambour de 40 cm de diamètre, pas facile à trouver.
On a fait une heure et demie de recherche dans le souk avant que quelqu'un nous dise il y a un magasin de musique, ça s'appelle comme ça. On a tapé sur Google Maps, on était à côté.
Les Bleus, non, t'as pas été dernier.
Ça aurait pu être bien sûr beaucoup mieux, on a l'habitude de faire beaucoup mieux. Alors un instrument de musique, ça va aider. Ça va aider, on espère être un peu meilleur.
Depuis mercredi, ça discute beaucoup entre supporters français sur les réseaux sociaux par message. Le mot d'ordre de Toto, c'est de se regrouper une fois dans les tribunes.
Quitte à se coller un sur l'autre, tant pis, à pas respecter les sièges. Se grouper et se motiver entre nous, quoi. Mais après, c'est vrai que les Qataris sont spectateurs.
Alors pour former un vrai carré bleu, certains vont tenter de se faire de la place.
Faire le ménage, les décaler ou les monter. Ou leur dire tout simplement, suivez le mood et puis vous allez voir, ça va être marrant.
Mais ce soir, une nouvelle fois, les Français ne seront pas nombreux, environ 5000 sur les 40 000 places disponibles dans le stade.
On fait quoi? On fait un chalalala entre 1000 personnes? Est-ce que c'est ça vraiment qui va pousser tout le stade? Je suis pas super optimiste.
Tout l'inverse de Toto.
Le premier match, c'était un essai. On va s'améliorer de jour en jour.
Cette fois, par exemple, les supporters français se sont donné rendez-vous en début d'après-midi pour partir ensemble vers le stade.
On entendra bien du tambour cet après-midi dans le stade, Mathieu.
Et bon match à Toto et à tous les autres. Les chants des supporters qui devraient aussi résonner à plusieurs milliers de kilomètres du Qatar, jusqu'en Normandie.
Oui, du côté d'Évreux. Pourquoi Évreux? Figurez-vous que le club de foot local est en gros pourvoyeur de talents depuis déjà des décennies. Ils seront encore trois sur ce mondial. Upamecano, Dembélé et Mandanda à faire la fierté de la formation normande. Valentin Jamin.
Sous le logo du club d'Évreux, le slogan « Générateur d'avenir » plante le décor. Ici, les formateurs sont fiers de raconter leurs souvenirs. Romaric Bultel a coaché Dembélé et Upamecano.
Ousmane, c'était un garçon maigrichon, farceur, mais très talentueux. Il touchait le ballon avec toutes les surfaces de contact, intérieur, extérieur, talon, semelle. D'ailleurs, garçon introverti, timide. C'est le genre de garçon qu'on aurait pu oublier dans un vestiaire ou dans un bus.
Deux titulaires contre l'Australie, Mandanda remplaçant est lui arrivé ici à 9 ans grâce à l'ancien coach des gardiens, Philippe Leclerc.
Il était à la boxe, il court sur le stade. J'étais loire. Le foot, ça t'intéresse? Moi, si je joue au foot, c'est pour être gardien de but. Puis on court pas quand on est gardien de but.
Il restera 6 ans. Les voir tous aujourd'hui au Qatar est une récompense, raconte le président Thierry Orcière.
On a toujours eu sur Évreux des éducateurs compétents. Même dans les petites catégories, tous les éducateurs sont bien diplômés. Tous les ans, on a des joueurs qui partent dans des clubs pro.
Comme les anciens joueurs Mathieu Baudemer ou Bernard Mendy, mais eux n'ont pas connu la Coupe du Monde.
Dans les matchs d'hier, l'Iran a battu le Pays de Galles 2-0. L'Angleterre et les États-Unis ont fait match nul 0 partout. Et puis au programme, aujourd'hui, outre la France, l'Argentine au pied du mur va affronter le Mexique à 20h, la Pologne, l'Arabie Saoudite. Et ce matin, Tunisie-Australie, l'autre match du groupe de la France, ce sera à vivre dès 11h en direct sur RMC.
Merci beaucoup Stéphanie Rock. Je répète ma question. Est-ce que vous voyez les Bleus se qualifier pour les huitièmes dès ce soir? 32-16, vos messages sur l'appli RMC. Allez les Bleus, tout à l'heure 8h40, Jérôme Roten, Jeannot Rességuier seront en direct avec nous pour les dernières infos, compos de ce match, mais aussi ce qu'il faut en attendre, ce qu'il faut espérer. Allez, 6h38, dans un instant, tout autre chose.
Vous n'avez pas honte? Honte de continuer à skier alors que les glaciers fondent, que les pistes sont toutes recouvertes de neige artificielle?
C'est un débat lancé et relancé par la députée Sandrine Rousseau à l'heure de l'ouverture des stations. On vous le propose ce matin au 32-16. Est-ce qu'il faut avoir honte de continuer à vouloir faire du ski? Vos réactions, et on se retrouve dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h20, soyez les bienvenus sur RMC. Faire de la neige artificielle pour que les riches puissent continuer à skier, ça n'a aucun sens. Voilà ce que dénonce la députée Sandrine Rousseau. Alors, est-ce qu'il faut avoir honte de faire du ski en 2022? C'est la question qu'on vous pose ce matin, en ce 26 novembre, jour d'ouverture des pistes à Val Thorens.
L'enquête RMC.
Ouverture d'ailleurs repoussée d'une semaine, faute de neige. Alors comment les stations s'adaptent au réchauffement climatique? Les professionnels des sports d'hiver ont-ils encore un avenir? On va essayer de savoir et comprendre avec la rédaction d'RMC avant toute chose. Bonjour Alfred Orange.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour.
Les stratégies ne sont pas les mêmes, Alfred, d'un versant à l'autre d'une même montagne.
Oui, parce que les options sont multiples. La première, c'est l'option qu'on pourrait appeler jusqu'au boutiste, qui consiste à profiter de la neige jusqu'au bout. La station de Valoir en Savoie fait ce pari. Elle a décidé de condamner ses pistes en dessous de 2000 mètres, pas assez enneigées, pour en ouvrir d'autres plus haut, une sorte de course à l'altitude. Avec cette stratégie, les dirigeants de la station espèrent prolonger la durée de vie du ski alpin de 30 à 40 ans.
Oui, alors pourtant, en montagne plus qu'ailleurs, on se rend compte, Alfred, du changement climatique et de la baisse de l'enneigement.
Vous avez raison, cette réalité, certaines stations l'ont prise en pleine figure. C'est le cas de La Plagne, qui a décidé de rétrécir son domaine skiable devant le recul prolongé d'une partie de son glacier. Alexandre Bouet est le directeur adjoint de la station.
Plutôt que de s'acharner à maintenir ces remontées mécaniques en état de marche, à grand renfort de travaux, on a fait un choix beaucoup plus audacieux de démonter purement et simplement ces deux télésièges. Et donc de réduire légèrement l'emprise du domaine skiable et de restituer à la nature un peu plus de 50 hectares qui correspond à la zone de l'ancien glacier qu'on va rendre à la nature à partir de l'hiver 2023-2024.
Une décision plus raisonnable que rentable, explique le directeur. Arrêter d'investir dans le tout-ski au risque de voir le chiffre d'affaires diminuer. C'est cette vision réaliste que partage la plupart des stations.
Ouais, être réaliste, tout de même, c'est aussi se dire qu'à terme, des stations vont devoir fermer.
Bien sûr, et certaines en sont tout à fait conscientes. Dans le Jura, la station de Métabier, située à 1400 mètres d'altitude, a mené une étude. Et c'est d'ores et déjà qu'à l'horizon 2035, elle ne pourra plus vivre du ski alpin. La station fait donc sa mue. Sylvain Philippe en est le directeur.
Ça peut se résumer en une transition d'une station de ski en une base de loisirs en montagne. On développe aussi d'autres activités pas météo dépendants. Par exemple, on a construit une luche sur rail depuis quelques années, on fait du VTT, tout en sachant que ces activités en aucun cas ne pourront remplacer l'impact économique que le ski alpin a sur le territoire.
Et à terme, toutes les stations vont devoir se poser la question parce que les saisons d'hiver vont être de plus en plus courtes, avance Samuel Morin, directeur du Centre National de Recherche Météorologique.
En termes de durée d'enneigement, on a perdu à peu près un mois d'enneigement depuis les années 70, à basse et moyenne altitude, hein, en dessous de 1500 à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes. On s'attend à perdre à peu près un mois d'enneigement supplémentaire par degré de réchauffement planétaire. Donc si on atteint 2 degrés par exemple, on s'attend à perdre quasiment un mois d'enneigement supplémentaire à basse et moyenne altitude.
Derrière ce constat, c'est tout un bassin d'emplois qu'il va falloir repenser. 120 000 emplois en France dépendent directement du ski alpin chaque année.
Merci beaucoup Alfred Orange. Enquête à retrouver en intégralité sur rmc.fr. Est-ce que vous avez prévu d'aller au ski cette année? Est-ce qu'il faut en avoir honte? Est-ce qu'il faut renoncer au sport d'hiver? On en parle avec vous au 32-16. Gilles Perly est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de l'Office de tourisme de Serre Chevalier. Ça sent bon, la saison se prépare. L'ouverture, c'est prévu pour le week-end prochain chez vous, je crois.
Alors, l'ouverture est prévue le week-end prochain, mais compte tenu des conditions d'enneigement, nous réservons d'ouvrir plutôt la semaine suivante.
Et voilà, c'est-à-dire que d'année en année, vous prévoyez une date d'ouverture et vous êtes obligé de la repousser parce que de moins en moins de neige, en particulier chez vous dans les Alpes du Sud.
Alors voilà, les Alpes du Sud, c'est particulier. Quand la neige tombe, c'est souvent ce qu'on appelle un retour d'Est. C'est du mauvais temps qui vient d'Italie, des pays de l'Est, et pas du Nord, comme sont servis les Savoies, les Hautes-Savoies. Mais nous, bon, ici, dans les Alpes du Sud, on a quand même l'habitude d'ouvrir aux alentours du 10 décembre habituellement. Donc ça, c'est quelque chose qui sera maintenu. Nous avons la société qui exploite les remontées mécaniques qui travaille déjà parce qu'il fait déjà froid. Donc, il prévoit la neige de culture pour pouvoir skier sur les pistes en altitude pour l'instant.
Gilles Perly, c'est neige de culture, c'est-à-dire canon à neige, neige artificielle.
Voilà. Donc, il faut faire attention quand on parle de neige de culture. Les gens croient que c'est la neige est produite avec des artifices. Il faut savoir que c'est simplement de l'air et de l'eau à basse température qui permettent de fabriquer de la neige. Mmh. Donc voilà, déjà souvent les détracteurs emploient les artifices et non c'est naturel.
L'eau, vous la prenez où, Gilles ?
Alors nous, on a la chance d'avoir beaucoup de réserves collinaires qui étaient déjà ou existantes ou qui ont été créées les années passées. Et nous avons la chance d'être très très servis en eau, ce qui fait que pour l'instant, on peut toujours produire de la neige. Il faut savoir que les remontées mécaniques, ici la société Serre Chevalier-Vallée, qui fait partie du groupe de la CDA, depuis déjà une dizaine d'années, travaille beaucoup sur les énergies renouvelables, sur les baisses de consommation d'énergie. Ils sont régulièrement primés à ce titre. Sont cités un exemple par rapport aux autres stations françaises. Et donc,
C'est une préoccupation.
C'est une préoccupation qui existe déjà depuis longtemps chez nous. Donc voilà. Donc effectivement, j'entendais les différents intervenants. Nous, ici, nous sommes à 1400-1500 mètres en fond de vallée. Aujourd'hui, comme partout ailleurs, les remontées mécaniques suppriment des ascenseurs pour éviter de consommer d'énergie et prévoit par exemple des jardins de neige pour les enfants à partir de 2000 mètres. Tout est réétudié pour
aussi s'adapter à la réalité climatique d'aujourd'hui. Voilà donc cet autre exemple à travers vous, Gilles Perly, Serre Chevalier. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir honte de continuer à vouloir faire du ski malgré ce réchauffement ? Tiens, Manu nous écrit pas du tout. Moi, j'ai pas honte. J'irai encore cette année. Si on écoute Sandrine Rousseau, on ne fait plus rien. Vous poursuivez le débat au 32-16 et j'entends que ça vous fait sourire, Gilles Perly. Merci beaucoup à vous. Excellente journée et bonne saison à Serre Chevalier. 6h47. La Haute-Savoie. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous.
Terre de montagne aussi, mais un tout autre sujet. Jean-Christophe, vous réagissez à la réintégration ou pas des soignants non vaccinés, sujet à nouveau sur la table. Pour ou contre, Jean-Christophe ?
Il faut réintégrer les soignants non vaccinés, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le vaccin empêche de contaminer quiconque ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'être malade ? Non. Donc aujourd'hui, ce qu'on est sûr, c'est que les patients hospitalisés sont contaminés par des soignants vaccinés. Donc,
ils ne sont pas forcément contaminés à l'hôpital. Ils entrent à l'hôpital.
Ils ne sont pas forcément contaminés à l'hôpital, mais ceux qui le sont, c'est forcément des soignants vaccinés. Mmh. Donc, ça ne sert strictement à rien. Mmh. Donc, on arrête de mettre des règles idiotes.
L'Italie vient de réintégrer ses soignants non vaccinés. En Europe, il n'y a plus que la Hongrie, la Grèce et la France qui maintient cette obligation vaccinale. Et il y a, vous avez raison de le souligner Jean-Christophe, cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu les trois doses de vaccin pour pouvoir continuer de travailler à l'hôpital, aujourd'hui, la troisième dose de vaccin, ça fait quasiment un an, donc l'immunité a baissé. Donc de ce point de vue-là, est-ce qu'entre ceux qui ont reçu le vaccin et ceux qui ne l'ont pas du tout reçu, en termes d'immunité, on est quasiment au même niveau.
Exactement.
Donc, rupture d'égalité à vos yeux, Jean-Christophe. En attendant, la Haute Autorité de Santé doit se prononcer et c'est derrière elle qu'Emmanuel Macron se range. Mais il laisse la porte ouverte.
Il s'abrite. En fait, il ne veut pas il veut pas prendre une décision, donc il se cache derrière des scientifiques qui n'en
sont
pas.
C'est à lui de la prendre parce que lui dit ça doit être médical, pas politique.
Mais oui, mais c'est totalement politique.
Trop facile.
Ouais, trop facile.
Merci Jean-Christophe.
On sait que, et puis pour le ski, il faut continuer, on est d'accord.
Et ben voilà, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, j'allais écrire juste au moment où Amina a téléphoné.
Et ben voilà, vous réagissez voilà. Sur tous les sujets de l'actualité.
Exactement.
Merci Jean-Christophe et on poursuit sur
à
les
bientôt,
soignants.
Mathieu.
À bientôt, merci d'être à l'écoute d'RMC. 8h10 tout à l'heure, le député qui veut réintégrer les soignants non vaccinés, Olivier Serva, avec nous sur RMC. Pour le moment, 7h-10.
À suivre dans la matinale week-end.
On va sortir nos plus belles boules de Noël et vous présenter la plus vieille chatte du monde. Oui, vous ne rêvez pas. C'est le programme de vos histoires du week-end dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Soyez les bienvenus, il est 6h51. Tiens, juste après le journal de 7h pour vous signaler, on reparlera de ce Black Friday, ou plutôt de la journée sans achat. C'est aujourd'hui, stop à la surconsommation. Est-ce qu'on consomme trop en France? On attend vos avis dès maintenant au 32-16. D'abord, on se détend et on ouvre la presse.
Les histoires du week-end.
Avec Peggy Broche, Margot Bourdin et Stéphanie Rock, je commence par Stéphanie qui a un nouveau coup de gueule ce matin. Parce que c'est vrai qu'on attendait les prises de position, les engagements très forts avec cette Coupe du Monde, parmi les joueurs, parmi les équipes engagées. Est-ce que finalement c'est un mondial particulièrement engagé ou pas? Pas vraiment, Stéphanie.
Alors il y a eu les pays nordiques représentés par le Danemark qui est le seul représentant qualifié pour cette compétition, qui a porté un maillot noir en signe de deuil pendant l'échauffement du premier match. On a vu d'ailleurs l'ancienne première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt se rendre au stade avec une robe aux couleurs arc-en-ciel. On a vu les Anglais mettre un genou à terre. On a vu les Iraniens refuser de chanter leur hymne et les Allemands se mettre la main devant la bouche en signe de censure lors de leur premier match. Bien sûr, les combats des uns et des autres ne partent pas sur les mêmes questions, mais cette compétition sportive est un véritable catalyseur de révolte. On reproche souvent aux sportifs de ne pas prendre position. Et là, Mathieu, ils le font, ils s'engagent. Alors, quelle réponse apporte la FIFA à ces prises de position? Ils ont tenté de calmer la grogne, entre guillemets, en autorisant un brassard et un message par match. Donc, fini le fameux One Love. On autorise pour le premier match Football Unite the World. Alors, pour ceux qui ne sont pas bilingues, le foot unit le monde. C'était le brassard notamment porté par le capitaine des Bleus. On aura droit, je vous fais un petit florilège, hein, pour les prochains matchs à Save the Planet, Protect Children ou encore le virulent, très virulent No Discrimination. On croirait entendre un concours Miss France. On a vraiment la sensation que la FIFA a tenté de noyer le message du brassard initial One Love, qui était censé parler des discriminations, notamment des communautés LGBT. On attend de voir ce que feront les Danois aujourd'hui pour la France. On le sait, Hugo Lloris, le capitaine a déjà déclaré suivre l'avis de son président Noël Le Graët. Il préfère se plier aux règles, pour reprendre son expression. Mais est-ce qu'on peut se plier aux règles en décidant de montrer sa désapprobation envers un régime qui discrimine et torture les communautés LGBT et qui a laissé, faut-il le rappeler, au moins, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, 6500 ouvriers venir mourir sur les chantiers et les infrastructures. Alors si on ne porte pas un brassard, on peut porter des crampons aux couleurs LGBT, on peut porter un maillot, certains le font. C'est vrai qu'on attend l'équipe de France sur des prises de position un peu plus virulentes.
Certains s'engagent, ils pourraient encore plus s'engager. L'équipe de France est l'une de celles qui s'engagent le moins. Est-ce que vous le regrettez d'ailleurs que nos Bleus ne portent pas l'engagement haut et fort? 32-16 si vous souhaitez réagir. Ce matin, beaucoup plus léger, Marco Bourdin, les décorations de Noël à la maison. On s'y met quand?
Eh bien, c'est la grande question rituelle chaque année. On se la pose tout le temps. Est-ce qu'on attend la dernière minute? Est-ce qu'on s'y met dès maintenant? Eh bien, ce matin, on a enfin une réponse grâce au site britannique du HuffPost. Figurez-vous que la bonne date, c'est demain, Mathieu, dimanche 27 décembre. Oui,
pourquoi?
Car nous sommes demain le quatrième dimanche avant Noël, le début de l'Avent. Ça, c'est ce que dit la tradition. Mais chacun a son rituel. Il y a ceux qui attendent le 1er décembre pour coller à l'ouverture de la première fenêtre du calendrier de l'Avent. Dans l'Est de la France, la tradition veut qu'on attende le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Vous, autour de la table, vous attendez le dernier moment? Vous y mettez
demain? Je suis en train de me demander, soit ce week-end, soit celui d'après.
Oui, pareil, je préfère celui d'après. Bon, en tout cas, sachez que ça fait du bien au moral. Une personne sur deux dit que décorer sa maison pour les fêtes remonte le moral parce qu'on sécrète de la dopamine.
Moi, j'adore ressortir les guirlandes, les petites...
Vous faites le sapin?
Bien sûr que je fais le sapin. Ah. Évidemment, je vais l'acheter. Oui, je mets des arbres morts chez moi. Oui.
C'est fou. Mais vous allez les replanter après.
Bien sûr. Peggy Broche, vous nous présentez ce matin la plus vieille chatte du monde.
Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Flossie, forcément un chat britannique, qui va avoir dans quelques jours, écoutez bien, 27 ans.
Combien?
27 ans, selon le livre, oui, Guinness des records, c'est le plus vieux chat au monde aujourd'hui. C'est une femelle, elle est née en 1995, elle a précisément 26 ans et 330 jours, soit en âge humain, vous avez une idée?
Bon, bah, 125,
140,
non?
Vous êtes pas loin, c'est 120 ans.
Alors, il ressemble à quoi, cet âge-là?
Oh, arrêtez! Bah, déjà, il est en pleine forme.
Bon, bon,
il est un peu sourd.
Ah,
c'est une femelle. Elle est un mais c'est pas grave. Elle est un peu sourde. Certes, mais bon, elle est en pleine forme. Est-ce que vous avez une idée de combien il faut multiplier pour l'âge humain, etc.
6, 7, non?
Eh ben, c'est pas ça. On a souvent, on se dit souvent que c'est 7 ans, mais non, c'est une fausse idée parce qu'en fait, le chat n'a pas une croissance régulière. À 6 mois, il en a 18. Entre 2 et 10 ans, c'est un adulte. Ensuite, entre 11 et 14, c'est un senior. Et après, on dit que c'est un vieux chat. Et la moyenne, là, en gros, il faut multiplier l'âge de Flossie par 4,4, et ce qui fait 120 ans. Un chat vit en moyenne 12 à 14 ans. Certains vivent jusqu'à 20 ans. Et le plus vieux chat du monde, en 2005, avait 38 ans.
Ah oui, tout de même.
167 ans.
Elle avait votre âge, Peggy.
Oh.
Vous sortez du studio, je dis, ça va, ça va, Stéphanie.
Pas en âge de chat.
Grosse bise à Flossie et à tous ceux qui s'occupent d'elle dans son EHPAD de chat. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur RMC. Dans 2 minutes, les infos de 7 heures.
Je n'aime plus la matinale week-end.